Alors, qu'est-ce qu'il faut déduire de tout ça, de la manière dont le Coran envisage Jésus? Eh bien, nous voyons qu'il s'agit d'emprunts à des hérésies chrétiennes apparues avant, apparues dans le monde chrétien, au Proche-Orient, avant l'apparition de l'islam. Il faut dire que c'est vrai que les premiers siècles de l'Église ont été l'objet de l'élaboration doctrinale concernant la doctrine christologique. On a convoqué des conciles œcuméniques, les premiers conciles œcuméniques, pour débattre de la question. Et c'est ainsi que petit à petit, à force de réfléchir, de scruter les Écritures, l'Église a défini Jésus-Christ comme vrai Dieu et vrai homme. Et Marie, mère de Jésus, également mère de Dieu, dans la mesure où elle n'est pas une déesse, bien entendu, elle n'est pas l'épouse de Dieu, mais elle est mère de Dieu dans la mesure où elle a donné naissance à un être qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Mais avant d'en arriver là, donc des doctrines hérétiques se sont propagées et on en retrouve la trace dans le Coran. Ça vous intéresse que je vous donne deux ou trois d'entre elles? Bon. Oui? Bon. Alors, parmi ces doctrines hérétiques, il y avait l'arianisme. L'arianisme c'est une doctrine qui a été forgée par un prêtre d'Alexandrie au 3e-4e siècle. Il s'appelait Arius, A-R-I-U-S. Alors, Arius, donc il était prêtre, disait que Jésus est un homme exceptionnel, mais pas Dieu, que c'était une créature ayant bénéficié du privilège d'une filiation, mais de type adoptif. C'est Dieu qui aurait adopté Jésus. Mais que Jésus n'aurait été ni engendré, ni consubstantiel au Père. Une créature. Parce que Arius développait cette idée, vraiment que l'on retrouve dans le Coran. Il disait que si Jésus était engendré, cela voudrait dire que Dieu aurait perdu un peu de lui-même en engendrant un être. Donc ce n'était pas possible. Cette doctrine a été condamnée au premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église, qui s'est tenu en 325 à Nicée. Nicée, c'est N majuscule, I-C-E-E. Ça se trouve juste au sud d'Istanbul. Si un jour vous allez en Turquie, je connais Nicée, c'est très émouvant d'aller là-bas, bien sûr. Mais cette condamnation de la doctrine d'Arius ne l'a pas empêché de s'étendre un peu partout au Proche-Orient. Alors, deuxième doctrine, le nestorianisme. Le nestorianisme a pour inventeur, si on peut dire, Nestorius. N-E-S-T-O-R-I-U-S. Nestorius était un évêque, donc c'est quand même un personnage important, évêque de Constantinople, au 5e siècle. Alors lui, il niait l'union des natures divines et humaines dans la personne du Christ. Pour lui, il y avait séparation radicale. Et sa doctrine a été condamnée au concile d'Éphèse, toujours dans la Turquie actuelle, en 431. C'est ce concile qui a déclaré Marie mère de Dieu, en grec Théotokos. Nestorius, il a fini par être banni et exilé. Et lors d'un de mes voyages en Égypte, tout à fait en Haute-Égypte, dans le désert, eh bien, j'ai visité une nécropole où il y a là le tombeau de Nestorius. Il est enterré dans ce désert très lointain. Autre doctrine, le docétisme. Alors, le docétisme, D-O-C-E accent aigu, T-I-S-M-E. Ce docétisme, on ne sait pas qui l'a imaginé, cette doctrine. On sait que l'étymologie du mot vient du grec dokein, D-O-K-E-I-N, qui veut dire paraître. Cette doctrine niait l'incarnation du Christ. On disait que le Christ était revêtu d'une apparence humaine. C'était au 3e siècle, ça. Donc ce n'était pas Dieu non plus. Et le docétisme nie également la passion, que l'on retrouve niée donc avec vigueur dans le Coran. Là, d'après certaines traditions musulmanes, Mahomet aurait rencontré un moine adepte de cette doctrine du docétisme. Et ce moine lui aurait prédit qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il aurait une grande mission à Mahomet. Donc d'après le docétisme, le Jésus du Coran n'est pas fils de Dieu. Dieu n'est, voilà ce que dit le Coran, Dieu n'est point quelqu'un à adopter un enfant, gloire à lui dans sa transcendance. Je fais un petit rapprochement avec notre monde d'aujourd'hui. Le monde chrétien aujourd'hui est malheureusement miné par des théories qui sont aussi hérétiques. Avec l'expansion du monde musulman, voyez, il faut bien faire attention de ne pas dire n'importe quoi en tant que chrétien. Il est important d'être fidèle à l'enseignement du magistère. Sinon, ça peut ouvrir la porte, ça donne de la force à l'islam pour s'imposer. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont insuffisamment formés aujourd'hui et qui ne connaissent plus la doctrine chrétienne sur le Christ et qui entrent dans l'islam par simplicité, par facilité, vous voyez, ou par ignorance. Donc, toujours quand le monde chrétien est miné par les hérésies, ça sert l'islam. Et j'y reviendrai sur cette question pour d'autres aspects de l'islam et du christianisme. Donc soyons bien fidèles à l'enseignement du magistère. Maintenant, je vous ai dit que Jésus est toujours associé au nom de Jésus Aïssa, toujours associé au nom de sa mère. Donc il est important que je vous parle de Marie, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le Coran dit à son sujet? En fait, c'est très intéressant. Marie est la seule femme dont le nom soit mentionné dans le Coran. Bien sûr, il est question d'autres femmes dans le Coran, mais aucune n'a son nom mentionné. Même Ève n'est pas signalée par son nom. Il y a Adam et la femme d'Adam. Le nom d'Ève ne figure pas dans le Coran. Mahomet a été entouré de femmes, bien sûr, il a eu sa mère. La tradition nous dit qu'elle s'appelait Amina, A-M-I-N-A. Il a eu la première épouse, Khadija, dont je vous ai parlé. Il a eu les épouses quand il était polygame, notamment Aïcha, Fatima, qui était sa fille bien-aimée. Et beaucoup de musulmanes aujourd'hui sont fiers de porter le prénom de Fatima, mais aucune de ces femmes n'a son nom mentionné dans le Coran. Toujours, par exemple, quand on parle des femmes de Mahomet, c'est les épouses du prophète, vous voyez. Or Marie, elle, a son nom qui est indiqué, nommément, comme si on peut dire, dans le Coran, c'est Mariam, en arabe, Mariam, M-A-R-I-A-M. Ne pas dire Myriam, Myriam c'est en hébreu, avec M-Y-R-I-A-M, d'accord? Alors, non seulement le nom de Marie figure dans le Coran, il est cité 34 fois, bon, soit associé à son fils, mais parfois son nom est tout seul, isolé, 18 fois. Donc, son nom est cité 34 fois, dont 18 fois pour elle-même, sans être associée à son fils. En outre, on a retenu son nom comme intitulé d'une des sourates du Coran. La 19e sourate porte le nom, l'intitulé de Mariam. Je pense que ça mérite d'être souligné et que ce n'est pas sans signification. Alors, je vais vous dire encore plusieurs choses à son sujet. Il y a des choses incohérentes concernant Marie, il y a des belles choses, des choses surprenantes aussi. D'abord, la généalogie de Marie, dans le Coran, elle est peu claire. Le Coran présente Marie comme la mère de Jésus et en même temps comme la sœur de Moïse et d'Aaron. C'est curieux ça. Il y a au moins 14 générations entre Moïse et Jésus. Effectivement, Moïse et Aaron avaient bien une sœur qui s'appelait Marie. Alors, ça, vous le trouverez dans la sourate 3, verset 35. Voyez par exemple, lorsque les Juifs accueillent Marie qui vient leur présenter son nouveau-né Jésus, et que les Juifs l'accusent d'inconduite, voilà ce qu'ils lui disent. Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. Sourate 19, versets 27 à 28. Vous voyez, ô Marie, tu as fait quelque chose de monstrueux, tu as donné naissance à Jésus. Ô sœur d'Aaron. Alors, vous voyez, ça illustre bien cette absence de clarté concernant la généalogie de Marie. Bien sûr, il n'est pas question de Sainte-Anne et de Joachim, les parents de Marie, qui ne sont pas d'ailleurs dans l'Évangile, mais que c'est la tradition qui nous a transmis cette réalité. Donc, d'un côté, on a la mère de Jésus, Aïssa, et d'un côté, la sœur de Moïse et d'Aaron. Voilà, j'avais noté là, 18 siècles séparent les deux familles. En outre, le Coran ne parle pas de Joseph, l'époux de Marie. Alors, il y a dans le Coran deux récits d'annonciation. La sourate 3, versets 42 à 47, et dans la sourate 19, versets 16 à 22. Je vous en donne l'un d'entre eux. Les anges dirent, c'est plusieurs anges, « Ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle d'un verbe émanant de lui. Son nom est le Messie Jésus, fils de Marie, illustre en ce monde et dans la vie future. Il est au nombre de ceux qui sont proches de Dieu. » Donc c'est Sourate 3, verset 45. Mais voyez que là, il n'est pas question de l'Esprit Saint. L'ange ne dit pas à Marie que l'Esprit de Dieu la couvrira de son ombre. Les anges plutôt ne disent pas non plus que Jésus sera appelé fils de Dieu ou Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Comme on le voit dans le récit de Saint Luc, donc des évangiles. Et puis une différence très importante avec le récit biblique, évangélique de l'Annonciation, c'est que d'accord, Marie se voit annoncer qu'elle va être mère, mais en même temps, Dieu ne lui demande pas son consentement. Marie est mise devant le fait accompli et c'est tout. Il n'y a pas de fiat qu'il me soit fait selon ta parole. Le Coran n'a pas repris ce moment de l'Annonciation. C'est tout à fait logique puisque dans l'islam, Dieu n'associe pas l'homme à son plan. Tout à l'heure je vous le dirai. La Bible est une histoire, l'histoire de Dieu avec l'humanité. Le Coran n'est pas l'histoire de Dieu avec l'humanité. Dieu décide, il impose, il met l'humanité devant le fait accompli.